Bonjour et bienvenue sur le podcast Le corps a ses raisons. Je m'appelle Lisa et je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis 4 ans. J'ai créé ce podcast qui raconte le parcours de personnes atteintes de maladies diverses, souvent rares et méconnues. Tous les mois, j'accueille une nouvelle personne pour nous parler de son parcours avec sa maladie ou sa pathologie. Je les invite à se dévoiler avec sincérité et sans tabou, dans le but d'ouvrir la parole sur des thématiques de santé qui sont parfois difficiles. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Le corps a ses raisons. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Stéren, 21 ans, atteinte d'endométriose péritonéale et diaphragmatique. Elle nous parle aujourd'hui de son parcours, des premiers symptômes de la maladie jusqu'à son diagnostic, qui fut libérateur pour elle, qui pensait que tout était dans sa tête à force d'entendre les médecins lui dire qu'elle n'avait rien. Bonjour Stéren, merci de témoigner aujourd'hui au micro du podcast Le corps a ses raisons. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'endométriose. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Stéren, j'ai 21 ans et je suis une étudiante qui est aujourd'hui en pause dans ses études. J'étais en prépa ingénieur et après, j'ai dû arrêter, puis j'ai fait une première année en fac d'ingénierie qui, à cause de la maladie, s'est mal terminée. Et donc, je me suis dit que cette année, j'allais prendre une petite pause.
Et donc, cette maladie, c'est l'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'endométriose en termes un peu médical, on va dire, et puis nous expliquer un peu ton parcours avec celle-ci?
Alors, en termes médical, si je devais l'expliquer simplement, ça serait un peu compliqué parce qu'en fait, l'endométriose, elle est basée sur des théories. Donc, on n'est pas sûr de ce que c'est réellement, enfin, de comment, en tout cas, on l'a. Mais il y a deux grosses théories. Il y en a une qui est très présente en France, qui s'appelle la théorie du reflux, et qui parle d'en fait, quand on a ces règles, c'est la muqueuse utérine qui s'épaissit et qui s'évacue. Et en fait, si on a de l'endométriose, cette théorie dit que des cellules de l'endomètre, donc qui est cette muqueuse utérine, irait par les trompes et irait se coller aux organes qui sont aux alentours. Cette théorie est assez controversée puisqu'en fait elle n'explique pas tout, puisqu'il y a des fœtus qui ont été retrouvés avec des lésions d'endométriose, des bébés, des femmes sans utérus, nées sans utérus, et des hommes ont pu la développer. Donc cette théorie n'explique pas tout. Et ensuite, sinon, à l'étranger, il y a la théorie métaplasique qui est c'est la théorie qu'on explique le plus, et en fait ça serait de naissance, voilà, on développerait cette maladie dans le ventre de notre maman, et ça serait dû au péritoine, qui est la membrane qui entoure les organes, qui aurait des cellules qui ont la capacité de se différencier et de se transformer en tissu d'endométriose. C'est comme ça que je l'expliquerais. Donc voilà, c'est surtout basé sur une théorie, sur des théories, on sait pas réellement les vraies causes, on cherche encore. Après, si je parle de mon cas, par exemple, je peux parler en symptômes, je pense que ça parlera plus. Mes symptômes aujourd'hui, ça va être des douleurs pelviennes et lombaires chroniques, donc ça va être sous forme de crampes, de décharges électriques dans les ovaires. Pour les lombaires, c'est des brûlures. J'ai des douleurs au diaphragme, à l'épaule droite et au cou. Ça, c'est surtout des douleurs neuropathiques, puisque je suis également atteinte d'endométriose diaphragmatique. Et ça va être des douleurs vraiment très vive, comme si j'avais de la foudre dans mon diaphragme, et une sensation d'étau, là, comme si on me serrait très fort au niveau de la cage thoracique. J'ai de la fatigue chronique, des problèmes de transit, j'ai des douleurs pendant les rapports sexuels, je faisais des malaises, j'en fais un peu moins qu'avant. Et avant d'être diagnostiquée, j'avais très très mal pendant mes règles, des saignements abondants, chose qu'aujourd'hui je n'ai plus puisque je suis sous traitement qui fait que je n'ai plus mes règles aujourd'hui. J'avais des douleurs à la selle et des douleurs pour uriner.
Et donc tu parlais de la période avant que tu sois diagnostiquée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment finalement tu as commencé à avoir des douleurs et à quel moment tu t'es dit il faudrait que j'aille voir un spécialiste ou du moins un gynécologue parce que quelque chose ne va pas?
Alors j'ai eu mal lors de mes toutes premières règles, donc j'avais 13 ans. Mais voilà, c'était j'avais mal et puis bah c'était t'as pas de chance, toi t'as mal, les autres n'ont pas mal. Tant pis quoi, j'arrivais quand même à aller en cours et tout, donc 13 ans j'étais au collège. Mais à partir de 15 ans, donc à la rentrée au lycée, j'ai commencé à faire beaucoup de malaise dans les transports et je faisais pas encore le lien avec mes règles. Mais je me suis quand même dit que bah, s'il y avait un truc qui n'allait pas, donc j'allais voir mon médecin traitant. On pensait que c'était bah, je manquais de fer, puisque comme je saignais, bon, c'était pas non plus. C'était pas très inquiétant. Mais après, à partir de 16-17 ans, j'ai commencé à beaucoup rater les cours. Je ratais 5 jours de cours par mois, bah, le temps de mes règles, parce qu'en fait, je ne pouvais juste plus bouger. J'étais clouée au lit et je ne bougeais vraiment pas de mon lit pendant 5 jours. Donc, c'était assez compliqué et j'ai même fait, bah, là, c'était pendant mon année de terminale, j'ai même fait une phase de déprime, puisque j'ai dû être suivie psychologiquement et parce que bah, c'était très très difficile à suivre les cours comme j'étais plus bah, comme je ne pouvais plus y aller pendant plusieurs jours. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir une gynécologue qui m'a donné des pilules pour faire les pour arrêter ses douleurs, enfin tenter d'arrêter ses douleurs.
Quand tu dis des pilules, tu parles de la pilule contraceptive.
Oui, totalement. Oui, c'est la pilule contraceptive et la pilule basique qu'on arrête pendant 7 jours pour avoir ses règles. La pilule, c'est un sujet très controversé aussi parce que bah, déjà, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre la pilule à cause de leurs antécédents médicaux et qu'on dit souvent que la pilule est le traitement de l'endométriose. La pilule ne traite pas l'endométriose, mais va faire arrêter les règles, et c'est souvent pendant ces règles qu'on a de très grosses douleurs. Donc moi, je suis pas pour ni contre, mais j'avoue que chez moi, je suis bien contente de l'avoir parce que au moins je suis tranquille pendant une semaine par mois.
Et donc, à partir de quel moment le diagnostic a été posé de l'endométriose et comment?
Donc, j'ai fait plusieurs. J'avais été voilà, voir ma gynécologue à 17 ans environ pour me prescrire une pilule avec des médicaments en plus. Ça n'a rien donné. J'ai donc fait une échographie pelvienne qui n'aura rien donné non plus. J'avais toujours mal un an plus tard. Donc, à ce moment-là, j'ai 19 ans et je change de pilule pour une pilule continue. Donc, ça, c'est pour une pilule qui me fait stopper complètement mes règles. Et je fais également une IRM qui dira que j'ai le ligament utérosacré droit épaissi. Enfin, c'est un ligament qui tient à l'utérus. Ça peut être un signe d'endométriose, mais voilà, ça peut être signe de toute autre chose aussi et de trucs pas forcément très inquiétants. Donc on ne me prend pas forcément plus au sérieux que ça. Je change à nouveau de pilule 2 mois plus tard parce que j'avais toujours mal sous la dernière pilule. Malgré qu'elle arrête mes règles. Puis, 3 mois plus tard, je vais voir pour la première fois un médecin spécialiste de l'endométriose et avec qui ça s'est extrêmement mal passé. Je lui amène mes images où il y avait marqué comme diagnostic que voilà, le fait que mon ligament utérosacré droit était épaissi, c'était séquellaire d'endométriose. Et donc, ce médecin spécialiste m'a dit qu'il ne savait pas pourquoi j'étais là, que je m'inventais des maladies, que je n'avais rien du tout et mes douleurs étaient dues à mon alimentation alors qu'il ne m'avait posé aucune question sur mon alimentation. Donc voilà, je lui ai quand même expliqué toutes mes douleurs parce qu'il ne me posait aucune question et donc je voulais bien lui prouver en fait que bah, j'avais mal et que ces douleurs n'étaient pas normales. Et non, pour lui, il me trouvait toujours une excuse. C'était soit mon alimentation, soit la pilule que je prenais qui ne m'allait pas. Et donc, voilà, je suis sortie de là avec un rendez-vous pour une nutritionniste parce qu'il pensait que c'était mon alimentation et pour un nouveau changement de pilule, encore une fois. Mais donc, je suis sortie de ce rendez-vous complètement bah, dépitée parce que bah, il m'avait dit que j'avais rien, en fait. Voilà, donc comme ma gynécologue qui me suivait depuis le tout début m'avait dit que j'étais sûrement atteinte d'endo et que lui m'avait dit pas du tout, ça m'avait extrêmement mis mal et vexée en plus, hein, j'étais très vexée. Donc j'ai changé de gynécologue pour me dire, bon bah je vais demander un autre avis. Ce gynéco m'a refait faire une IRM plus une échographie pelvienne et endovaginale, donc une échographie sur le ventre et dans le vagin. Et à l'IRM, on verra que les deux ligaments, donc utérosacré droit et gauche, sont épaissis. On me dit que bah, c'est pas très grave, il n'y a rien. Et on me refait changer de pilule encore une fois. Et à ce moment-là, c'est bon, je perds espoir, je me dis que j'ai rien, mon médecin traitant me dit que j'ai rien, mon gynécologue me dit que j'ai rien, le spécialiste dit que j'ai rien, et je commence à me dire, bah en fait, c'est dans ma tête, et ma famille aussi, hein, parce que bon, ça faisait quand même, ça fait depuis, là j'ai 20 ans, quoi, j'ai 19 ans, donc depuis 13 ans j'ai mal et personne ne trouve rien. Donc là, j'en ai marre et je décide d'arrêter la pilule. Je me dis non, c'est bon, j'arrête, je l'arrête parce que si j'ai pas ça, il n'y a pas de raison que je la prenne. Et je savais qu'en fait, en l'arrêtant, j'allais de nouveau avoir mes règles et je voulais me prouver et prouver aux autres que quand j'aurai mes règles, j'aurai mal.
Qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, quoi. C'est assez incroyable de se dire, bon, bah, je vais tout arrêter pour prouver aux gens que je souffre. Donc, se dire, je vais subir la souffrance pour le montrer aux autres et qu'on me prenne un peu au sérieux.
Exactement ça, vraiment, c'était voilà, bah, je vais me faire mal en fait pour prouver à moi-même et aux autres, parce que même moi, je perdais totalement confiance en mes douleurs. Je me disais que j'ai peut-être rêvé, voilà, c'était vraiment.
T'avais l'impression que c'était dans ta tête, en fait, finalement.
Exactement, à la fin, oui, complètement, je me suis vraiment dit ça. Et j'ai eu mes règles et j'ai eu très très mal, ça s'est très mal passé. Et il s'avère qu'une semaine après cet arrêt de pilule, j'avais un rendez-vous avec un autre spécialiste que j'avais pris il y a des mois. Parce qu'il faut savoir que les rendez-vous avec les spécialistes d'endométriose, c'est très très long à avoir. Et je voulais même plus y aller. Voilà, je m'étais dit non, c'est bon, on n'arrête pas de me dire que j'ai rien. C'est pas la peine d'aller voir un énième médecin pour qu'il me dise la même chose et pour que je vive la même chose. Et finalement, mes parents me disent, bah attends, on a eu ce rendez-vous, au moins, il nous confirmera que c'est pas ça et on pourra partir sur une autre piste.
Donc malgré tout, tu vas y aller, mais pas du tout convaincu que ça va t'aider, quoi.
Ah oui, totalement. J'y vais et en plus, il avait 1 heure de retard et je râlais dans la salle d'attente à me dire, j'attends 1 heure pour qu'on me dise que j'ai rien ou pour en plus me refaire remballer. Donc vraiment c'était j'y vais pour qu'il me confirme que j'ai pas d'endométriose. Et en fait c'est tout le contraire qui va se passer. C'est un médecin qui pour la première fois va m'écouter, va comprendre et va me poser énormément de questions. Donc sur toutes mes douleurs, sur tout ce que je pourrais avoir, il me fait tout un questionnaire très très précis et il me dit alors pour moi vous avez de l'endométriose. Vous allez faire une IRM dans un centre spécialisé, donc avec une radiologue spécialiste. Pour moi, c'est sûr et certain, vous en avez et vous allez commencer l'ostéopathie. Voilà, il n'avait même pas le diagnostic sous les yeux qui me faisait déjà commencer une prise en charge par d'autres professionnels. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que le lendemain, j'appelle pour prendre rendez-vous avec le centre d'IRM et une place le lendemain se libère. Et voilà, donc 2 jours après ce rendez-vous, j'ai mon diagnostic, je suis atteinte d'endométriose péritonéale et 6 mois plus tard, j'aurai mon diagnostic dans le même centre d'IRM pour mon endométriose diaphragmatique.
Comment tu te sens à ce moment-là quand tu te retrouves face à ce médecin alors que tu n'avais pas du tout d'espoir que ce soit un rendez-vous qui soit différent des autres finalement, quand on te dit ben oui, je pense qu'effectivement vous avez une endométriose et je vous prends au sérieux et on va s'occuper de vous. Comment tu te sens psychologiquement à ce moment-là?
Alors ça a été très bizarre parce que je crois que j'ai pas réalisé sur le moment parce que vraiment on partait, j'ai toujours été accompagnée soit par mon père soit par ma mère pendant mes rendez-vous pour être sûre d'avoir toutes les informations et là vraiment j'étais avec ma maman et on a été toutes les deux, on le regardait la bouche ouverte parce que on comprenait pas, tout le monde disait que j'avais rien pendant des mois et des mois. Et là, d'un coup, il nous dit oui, bah c'est ça, c'est totalement ça, il n'y a aucun doute. Et puis vraiment, il était à nous ins à insister pour nous dire vous prenez bien rendez-vous demain, vous appelez demain. Il a insisté plusieurs fois pour que vraiment ça s'arrête, quoi, que j'ai un diagnostic et que je puisse être prise en charge le plus vite possible. Donc ça a été vraiment, ouais, on est resté un peu sur les fesses. Et en sortant de ce rendez-vous, on était juste complètement chamboulée parce qu'on rentrait dans ce cabinet pour confirmer que je n'avais pas d'endométriose et on ressort en me disant que j'en ai une. Donc c'est sûr que ça a été assez perturbant.
À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des traitements particuliers? Tu parlais tout à l'heure, je crois, d'ostéopathie.
Ouais, bah alors il faut savoir que déjà pendant là tous ces derniers rendez-vous là entre le rendez-vous avec le premier spécialiste et le deuxième, j'étais à la fac, je n'allais pratiquement plus en cours parce que bah j'arrivais plus, parce qu'il faut savoir que je ne peux pas marcher plus de 20 minutes sans être, enfin maintenant ça va un peu mieux, mais à l'époque je ne pouvais pas marcher plus de 20 minutes sans avoir mal. Je pouvais pas être assise plus de 20 minutes, donc en amphi, c'est un peu compliqué. Et donc oui, là, j'ai complètement en fait un peu abandonné les cours pour me consacrer à ça, puisque de toute façon, je pouvais pas faire grand-chose d'autre. Et donc oui, j'ai fait la première professionnelle que j'ai été voir hors médecin traditionnel, c'est mon ostéopathe, qui me suit depuis maintenant plus d'un an et avec qui ça m'aide énormément. Et je fais une séance tous les mois. Voilà. Et sinon, depuis, je suis aussi également allée voir une acupunctrice que je vois tous les mois aussi. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut faire à la maison. On peut faire du yoga, de la méditation, on peut s'étirer. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour aller mieux. Il y a l'alimentation anti-inflammatoire aussi. Ouais, il y a plein de choses dont les médecins en fait ne nous parlent pas, parce que eux, ça va être la pilule et puis voilà. Hein, et puis il y en a, c'est même l'opération, parce qu'il y a des cas où c'est totalement urgent. Hein, mais ça va être opération, pilule et puis voilà quoi.
Et toi, il n'y a pas de nécessité d'opération?
Alors moi, mon spécialiste a beaucoup de mal à opérer les personnes jeunes comme moi. Voilà, s'il n'y a pas urgence, évidemment, il préfère opérer une fois et c'est avant de voilà quand il y a un projet bébé. En fait, on dit souvent, là, ça va être différent en France et à l'étranger. À l'étranger, ça va être, on veut opérer le plus tôt possible pour que, voilà, et le mieux possible pour que après la personne puisse vivre normalement, enfin, le plus normalement possible. En France, ça va être opérer avant projet bébé et ne pas opérer plus. Ou alors, il y en a qui se retrouvent vraiment, après, ça dépend des chirurgiens, mais il y en a qui se retrouvent à 10 opérations. À 25 ans, quoi. Pour enlever des lésions, il y a deux techniques. Il y a la technique de l'ablation et la technique de l'exérèse. Et la technique de l'ablation, ça va juste venir brûler le haut de la lésion. Et l'exérèse, ça va venir chercher les racines de la lésion. Bon, en France, il y a les deux qui se font. Des fois, il faut faire de l'ablation parce qu'on est obligé, parce que sinon, ça abîmerait trop l'organe. Mais il y en a qui font vraiment juste comme ça, qui brûlent toutes les lésions et puis qui referment et qui disent que c'est fini. Mais le problème, c'est que bah, 2 mois plus tard, le patient, tout a repris, quoi. Donc, faut être bien pris en charge pour une opération. Faut avoir très confiance en son chirurgien et bien savoir comment il opère.
Du coup, aujourd'hui, tu disais que tu avais mis en stand-by tes études. Peut-être qu'en ce moment, finalement, c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais pour sortir, pour avoir une vie de jeune femme, finalement, comment tu vis ça ?
Je fais une formation en psycho qui ne me donnera pas de diplôme, enfin, je ne pourrai pas travailler après cette formation-là, mais parce que avec mon compte Instagram sur lequel je sensibilise à l'endométriose, je rencontre énormément de personnes atteintes d'endométriose et qui ont beaucoup besoin d'aide, et je les aide avec grand plaisir. Et en fait, je me suis dit que aider les gens, c'est quand même quelque chose que j'ai toujours aimé faire, et pourquoi pas prendre l'endo comme force et me réorienter dans un métier comme celui-là. Donc c'est pour ça que je fais une formation cette année pour voir si ça me plaît et pour pouvoir avoir un tremplin pour essayer de reprendre l'année prochaine. Après, sinon, oui, c'est sûr que aussi en ce moment, j'ai les soirées et tout avec les amis, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent.
Oui, c'est sûr.
Donc j'ai pas trop à sortir d'excuses pour ne pas y aller, hein. Le Covid est une bonne excuse. Mais c'est sûr que dans la vie normale, c'est un peu plus compliqué parce que déjà on est très fatigué, donc on va pas tenir jusqu'à 3h du matin comme les autres, et encore on va avoir besoin de prendre des médicaments. Voilà, moi j'ai des médicaments à prendre, J'ai un appareil de neurostimulation là, que je mets avec des électrodes pour tenir, parce que je ne peux pas tenir debout toute la soirée. Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, on va très vite refuser des choses. Je vais essayer de voir les gens, mais dans des contextes où j'ai pas, où je sais que ça va aller, quoi. Si je suis fatiguée, je peux rentrer chez moi, ou alors j'ai un lit à proximité, des toilettes, etc. Vraiment, je vais pas me mettre dans des situations compliquées. C'est sûr que par contre, parfois, on va proposer une balade et qui peut durer plusieurs heures, et comme j'ai pas une jambe dans le plâtre, on va se dire que ça va le faire. Et en fait, non, je peux pas, je pourrais jamais la faire, cette balade. Donc c'est sûr que ça peut un peu embêter parfois, et c'est surtout que comme c'est une maladie invisible, que ça se voit pas, si on vit pas avec moi tous les jours, on peut complètement oublier que je peux pas, je peux pas faire tout ce dont une personne normale peut faire. Et mais sinon, non, vraiment dans mon cercle proche, il y a pas de souci sur ça. Après, oui, j'ai déjà eu des regards pas très cool. C'est surtout par exemple dans les transports en commun, parce que je suis jeune, j'ai une maladie invisible, je n'ose absolument pas demander ma place à quelqu'un dans les transports en commun. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'ai pas non plus la carte priorité handicapée. J'ai pas quelque chose pour prouver que j'ai besoin d'être assise. Et je me sens toujours mal d'aller demander à quelqu'un de se lever pour me laisser la place, alors que ça se voit pas que je suis malade. Et je vais m'asseoir par terre ou m'asseoir sur des marches, parce que ça va vraiment pas, que si je m'assois pas, je vais tomber dans les pommes. Et donc là, tout le monde a le regard sur toi. Et bon, tu te sens jamais très bien, mais bon, en même temps, tu te dis qu'ils te regardent, ils te voient que t'es pas bien, mais ils te laissent pas la place non plus, quoi. Donc,
Est-ce que t'en parles facilement de ta maladie, même avec éventuellement des personnes que tu rencontres ou...
Ah oui, si on me pose la question, y a aucun souci. J'ai aucun tabou sur la maladie. Aucun.
Ça se ressent, parce que du coup, dans tes réseaux sociaux, c'est ton sujet principal.
J'ai créé mon compte Instagram au départ pour moi me faire ma thérapie. C'était mes premières publications étaient plus dans l'incompréhension, dans la colère d'avoir été rejetée par les médecins aussi souvent. Et puis finalement, j'ai rencontré des gens aussi qui avaient la même maladie que moi. Et puis je me suis dit que je pouvais les aider puisqu'on me posait des questions. Et puis après, c'est parti sur ça. Donc c'est plus dans l'information, l'aide, et vous n'êtes pas seul. Et oui, j'en parle vraiment, j'ai aucun sujet tabou, je parle de tout, et je vois pas pourquoi y aurait un sujet tabou avec l'endométriose. Faut en parler.
Et tout à l'heure, tu disais que pendant la période où tu faisais tes études, mais que tu devais t'absenter souvent, tu as eu une période où tu étais primée, en fait. Est-ce que justement, le fait de un peu extérioriser tout ça aussi sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'a fait du bien?
Ah oui, complètement. Parce qu'en plus, pendant la période là où j'avais dû être suivie psychologiquement, je savais pas du tout ce que j'avais. J'étais pas diagnostiquée, j'avais même pas pensé à l'endométriose, c'était quelques années avant. Mais là, oui, en sachant tout ça, ça a fait du bien d'extérioriser. J'avais juste en fait besoin, parce que dès que j'ai été diagnostiquée, je ne parlais que d'endométriose. Je pense que c'est peut-être aussi normal, parce que d'un coup, on met un mot sur nos mots. Je ne parlais que de ça. Je ne regardais que des choses sur ça. Je ne me renseignais que sur ça. Et tout ce qui sortait de ma bouche, c'était endométriose. Et j'avais peur de commencer à saouler mon entourage. Parce que c'est sûr que parler tout le temps de ça, ça doit pas non plus être super intéressant à entendre toute la journée. Donc, je m'étais dit, je vais créer un compte Instagram pour justement parler et que ça soit vu par les gens que ça intéresse. C'était tout, ça me suffisait. Et oui, vraiment, ça a été une thérapie de faire ça.
Mais est-ce que du coup, ça t'as des difficultés plutôt à faire des rencontres aussi à ce niveau-là, parce que finalement, c'est peut-être pas évident aussi de dire à une compagne ou un compagnon, bah voilà, je suis malade, et en plus de ça, c'est quand même une maladie qui touche quand même aussi la fertilité. Est-ce que ça te fait un peu peur tout ça?
Alors, il faut savoir que oui, j'ai un copain depuis plus de 4 ans maintenant, donc il a vécu tout le début de les malaises, de quand ça commençait à pas aller du tout. Et donc, il a vécu tout ça aussi, là, toute l'errance médicale, les médecins qui disaient que j'avais rien et le diagnostic. Donc, je pense que ça a aidé parce qu'il a vécu tout ça avec moi et que j'ai pas dû annoncer comme ça sans le connaître. Après, c'est sûr que moi, comme je me suis pas retrouvée dans cette situation-là, j'ai pas de, voilà, de conseils ou de... Je sais pas ce que ça fait, mais je sais que c'est extrêmement compliqué quand j'entends des personnes parler de ça. Comment annoncer en fait à une nouvelle personne qu'on a envie de fréquenter, qu'on est malade, que les rapports sexuels, en tout cas, j'allais dire avec pénétration, mais c'est même pas forcément avec pénétration puisque les douleurs peuvent être à l'excitation et à l'orgasme. Et à la pénétration profonde aussi, même juste à l'entrée, puisqu'il y a un nerf qui passe par là et qui peut être atteint. Donc, les rapports, c'est quand même très compliqué. Enfin, en tout cas, ça peut être très compliqué. Quand on vient de rencontrer quelqu'un, est-ce que cette personne va avoir le courage, entre guillemets, de vivre ça avec nous et de subir ça avec nous, puisque en dehors aussi des rapports, ça va être de la fatigue quotidienne. Des traitements à prendre, des douleurs, voir la personne mal. C'est sûr que pour l'autre, c'est pas facile quand même.
À quel moment t'as eu ce déclic de te dire finalement je suis malade, maintenant il faut que je reste positive, il faut que je continue en fait à vivre comme ça malgré tout.
Alors je pense que je suis dedans, voilà. J'ai toujours été à en vouloir parce que ça m'avait quand même gâché pas mal de choses. Enfin, c'est là en ce moment avec le compte Instagram quand même d'avoir plein de gens qui vivent la même chose. Le fait d'aider en fait ces personnes-là fait que tu te sens un peu, je vais pas dire obligée parce que c'est pas le cas, mais de l'avoir accepté pour pouvoir les aider. C'est d'être un peu plus avancé pour pouvoir aider, ce qui n'est pas totalement ce qui est pas totalement vrai, hein. On peut ne pas l'avoir accepté et quand même aider les autres, mais ce compte Instagram et d'avoir beaucoup parlé avec les gens m'a fait beaucoup grandir à ce niveau-là, et avec tout plein de conseils, en sachant que plein de gens vivent la même chose et que on voit des personnes atteintes de cette maladie très positives. En fait, ça donne envie de se dire de toute façon, c'est là, ça partira pas comme ça. Je vais tout faire pour mieux vivre avec, et puis on verra. Et puis voilà, le fait vraiment d'avoir pris cette année blanche à la maison, où j'ai pas allé en amphithéâtre, de suivre des cours, d'avoir une pression en plus et de se consacrer qu'à ça, ça fait que tu l'acceptes un peu plus, quoi.
Est-ce que tu redoutes un peu de reprendre ce rythme-là, de reprendre des études ?
Ouais, complet. Parce que ça va remettre quand même dans une situation qui est compliquée, hein, parce que si t'es fatigué et que t'as cours, t'as cours. Tu décides pas comme ça. Après, moi, je vais essayer d'avoir quand même les cours à distance, si je peux. Parce que oui, c'est sûr que même si j'ai pris mon année là pour me consacrer à ma santé et que j'ai tout fait pour aller mieux, en tout cas psychologiquement je vais beaucoup beaucoup mieux, mais physiquement ça ne suit pas. Et une année, même deux, même trois, je pense, ça ne me fera pas marcher, ça ne me fera pas tenir une vie d'étudiante normale. Donc c'est sûr que ça fait toujours un peu peur de reprendre, mais faut avancer aussi et je vais essayer, voilà. C'est pas très grave si ça se passe pas, c'est embêtant quand même, mais je rebondirai sur autre chose. Voilà, faut s'adapter.
Et au niveau justement de la fertilité, la manière dont tu es atteinte, toi, est-ce que ça peut empêcher d'avoir des enfants ou éventuellement le rendre, en tout cas la procréation, compliquée ?
Selon la localisation des lésions, moi j'ai pas de soucis sur ça pour l'instant. parce qu'il faut savoir que l'endométriose, ça évolue, même si on est sous pilule, hein, ça peut très bien évoluer. Quand on a de l'endométriose, il y a quand même toujours, voilà, ça restera toujours moins facile que quelqu'un qui n'a pas de problème. Après, il faut quand même savoir que l'endométriose n'est pas liée à la fertilité. Il y a quand même 60% des personnes atteintes qui arrivent à avoir un enfant sans aucun problème. Voilà, c'est parce que on dit toujours endométriose égale infertilité parce que dans les personnes qui ont des problèmes de fertilité, l'endométriose est la première cause. Voilà, c'est juste, c'est une idée un peu reçue. Bon, ça touche quand même pas mal, hein, mais voilà, c'est pas parce que je vois plein de gens qui viennent me voir aussi en me disant j'ai peur d'avoir de l'endométriose parce que j'ai peur de pas pouvoir avoir d'enfant. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est sûr que c'est vraiment la première chose qu'on dit quand on a de l'endométriose et on va jamais parler des problèmes de transit, la fatigue chronique. Ça va être très souvent être endométriose, douleur pendant les règles et infertilité. Bon, bah, parce que il y a la société aussi autour de ça et que bah, ça touche les femmes. Et bon, bah, femme égale règle et égale enfant. Faut pas non plus croire tout ce qu'on voit. Déjà, la définition de l'endométriose n'est pas souvent la bonne non plus dans les médias. Je sais qu'énormément de personnes atteintes d'endométriose se sont diagnostiquées elles-mêmes en étant allées sur Internet et juste en tapant symptômes de l'endométriose. Parce qu'en fait, on entend tellement les médecins nous dire que c'est une maladie à la mode, que les règles, ça fait mal, c'est normal, qu'en fait, on y croit à la fin et que c'est tellement voilà, devenu normal qu'une femme ait mal pendant ses règles que les médecins ne prennent plus au sérieux. Alors que vraiment, juste en 5 minutes sur Internet, on a de très grosses bases, même si voilà, des fois, il y a des petites bêtises de dites, mais au moins, on a les très grosses bases et on s'est diagnostiqué toute seule, quoi.
Bon, on dit souvent que c'est pas normal d'avoir des douleurs quand on a ses règles. Enfin, ça fait des années que je prends la pilule et j'ai quand même des douleurs, mais alors qu'ils sont vraiment minimes, hein. C'est rien de comparable à ce que une personne atteinte d'endométriose peut subir. Mais à quel moment, en fait, il faut avoir le déclic de dire non, là, c'est pas normal.
Alors ça va être donc quand on a très mal pendant ses règles et que ça engendre de l'absentéisme scolaire ou au travail. Et que avec des médicaments de palier 1, donc du Doliprane par exemple, les douleurs ne passent pas. Si ça passe pas, faut commencer à s'inquiéter. Il y en a qui ont vraiment juste des règles douloureuses et qui n'ont pas d'endométriose derrière. Enfin, mais voilà, vraiment quand ça commence à faire rater les cours ou le travail et que les médicaments ne marchent pas, là faut aller consulter. Et je le répète, faut aller consulter des spécialistes. Voilà, aussi, il faut avoir le feeling avec les spécialistes, hein, parce que mon expérience montre que tous les spécialistes ne sont pas toujours à l'écoute. Mais voilà, aller voir quelqu'un qui s'y connaît et faire ses examens avec des radiologues qui s'y connaissent aussi. Voilà, qui font des radios d'endométriose toute la journée. Et pas des radiologues qu'on peut trouver dans n'importe quelle clinique qui vont faire des radios de genoux, de chevilles, puis d'endos. Et voilà, ils ne sont pas formés pour voir les lésions, et parce que voilà, les lésions d'endométriose, si elles font moins de 5 mm, elles se voient pas. Donc, et ça veut pas dire qu'elles sont pas là et qu'elles ne font pas mal. Donc, faut bien être prise en charge avec des gens qui s'y connaissent, parce que même si on voit rien aux images, bah, le spécialiste pourra dire oui, mais les symptômes sont vraiment là, donc c'est sûr qu'il y en a.
Et justement, par rapport à ça, je ne sais pas si toi, tu as des spécialistes à conseiller, en tout cas.
Oui, alors bah, mon spécialiste, c'est le docteur Even. Il est à Paris, il est dans le 92 aussi. Et je me suis fait diagnostiquer, le centre d'IRM, il est à Paris, c'est le centre Bachaumont. Mais par contre, je sais que quand il y a des personnes qui viennent me parler sur Instagram et me demander des adresses, j'ai une liste de recommandations de spécialistes que je partage. Comme ça, bah, les personnes ont du choix. Parce que voilà, ça peut coller avec moi, je peux coller avec quelqu'un et avec un spécialiste et une autre personne ne collera pas avec.
Oui, c'est important finalement aussi bah, d'être écouté et d'être bien pris en charge en fait.
Oui, totalement, parce que en plus l'endométriose, voilà, même si moi je te dis depuis le début que j'en parle sans aucun tabou et que je m'en fiche complètement, je peux parler de tout, vraiment de tout. Ça reste quand même une maladie qui touche les règles, qui parle de sang, qui parle de rapports sexuels, d'intimité. Donc c'est sûr que si on est face à un médecin qu'on sent pas, voilà, avec qui on se sent pas à l'aise, qu'on se voit pas parler de nos rapports, parce que voilà, je le dis, ça peut arriver qu'on soit obligé de pas de raconter un rapport, mais de dire bah alors j'ai mal quand j'ai une pénétration très profonde ou vraiment à l'entrée, ou enfin voilà, faut quand même être assez à l'aise avec la personne qu'on a en face de soi.
Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui écoute cet épisode et qui est soit en train d'être diagnostiqué ou justement un peu dans le doute sur le fait d'avoir une endométriose ou qui vient justement de savoir qu'il est atteint de cette maladie?
Déjà que ces personnes ne sont pas folles, que si elles ressentent des douleurs, que c'est bien réel, que quoi qu'on leur dise, quoi que les médecins peuvent dire, quoi que leur famille peut dire, si elles ont mal, c'est pas juste psychosomatique, hein, voilà, c'est voilà, il y a de la douleur, c'est que il y a un problème, donc il faut croire en soi, qu'il faut vraiment écouter son corps, qu'il faut être suivi par des personnes spécialistes en qui on a confiance, et puis après essayer de se renseigner au maximum sur sa maladie. Vraiment, c'est le plus important parce que quand on va être vraiment au point sur sa maladie, on va pouvoir avoir de réelles discussions avec les médecins et pas une relation patient-médecin où le médecin est plus haut que le... Enfin, est supérieur au patient, parce que c'est souvent ce qui se passe quand même. C'est que voilà, le patient va voir le médecin ordonne et le patient exécute. Non, là, quand on est vraiment au point, parce qu'en fait, le médecin va noyer le poisson avec des mots qu'on comprend pas et des fois on n'ose pas poser la question. Non, voilà, faut vraiment poser les questions et demander des explications si on comprend pas. Par exemple, si le médecin dit quelque chose et que nous, on a lu autre chose, on n'est pas d'accord parce qu'on veut pas prendre ce traitement, parce qu'on a vu que ça pouvait faire ci, ça pouvait faire ça, on peut lui poser la question. Toutes les questions qui passent, faut les poser parce que après, sinon, quand le rendez-vous est fini, on fait mince, je ne vais pas poser cette question-là, et en fait, je ne sais pas trop. Voilà, vraiment, même si on a l'impression que c'est des questions bêtes, c'est jamais bête, on n'est pas médecin, on n'est pas né spécialiste de sa maladie. Voilà, on apprend, et puis c'est quand même notre corps, quoi. Et puis les choses qu'on va faire dessus ou les médicaments qu'on va prendre, c'est pas le médecin qui les prend, hein, c'est nous. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à poser des questions et bien bien se renseigner.
Et aujourd'hui, ça serait quoi ta devise au quotidien ?
J'ai une phrase que j'aime beaucoup et que avec laquelle je vis depuis maintenant très longtemps, depuis que je la connais. C'est une phrase d'Albert Einstein et qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et je trouve qu'elle est pas si mal cette phrase parce que par exemple, la société nous mettre dans un droit chemin, ce qui est son droit chemin à elle, et si on n'est pas bon dans ce chemin-là, on va croire qu'on est nul, alors que c'est pas le cas, et c'est pareil, voilà, avec la maladie, moi, avant la maladie, j'étais quand même une jeune fille qui est partie en lycée général, qui a fait un bac S, qui est partie en prépa ingénieur, enfin, ça fait vraiment le parcours vraiment de la personne parfaite qui suit la société, et finalement j'ai eu l'endométriose et ça m'a fait complètement changer de voie, et finalement je me sens peut-être mieux en dehors de cette voie-là, et voilà, c'est vraiment juste vous êtes pas nul, vous avez juste pas encore trouvé ce qui vous pousse, ce qui vous fait vous rendre meilleur. Et je trouve que c'est pas mal quand même.
En tout cas, du coup, j'invite tout le monde à te retrouver du coup sur ton Instagram, donc mon.endo. Mm-hmm. Si jamais ils ont des questions, ils peuvent te les poser. C'est un peu une mine d'or aussi, hein, pour comprendre un peu la maladie, la maladie et tout ce qui va autour finalement. Et du coup, il y a aussi l'association qui est dédiée à l'endométriose, à la lutte en tout cas contre l'endométriose, qui est Endo France. Sur lequel, pareil, vous pouvez trouver énormément d'informations et aussi, justement, contacter des bénévoles aussi pour avoir des témoignages ou en tout cas pouvoir discuter avec ces personnes pour être un peu guidé aussi. Donc, je te remercie beaucoup.
Et bien, je te remercie aussi de m'avoir accordé ce petit podcast.
Merci encore à toi, Stérène, pour ton témoignage plein d'espoir et sans tabou. Pour plus d'informations sur l'endométriose et son parcours, n'hésitez pas à la retrouver sur son compte Instagram, mon.endo. Pour ma part, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pathologie.